Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui nous emmène dans le monde de la politique. Et on va en parler avec beaucoup de recul et de perspective. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Souad Rzouk, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Souad?
Ça va très bien, alhamdoulilah. Merci d'avoir pensé à moi en tout cas.
Alors justement, la cinquantaine, ça fait quoi? Ça vous fait quoi?
Alors, personnellement, je ne la vois pas, je ne la sens pas. Donc, alhamdoulilah, j'ai toujours eu quand même une vie très active. Je pense que l'activité permet quand même de garder sa jeunesse et de garder sa santé.
Mmh. Vous attendiez justement... C'est-à-dire
je ne me vois pas comme une femme de 50 ans.
Alors, vous vous attendiez à être quelle femme de 50 ans, justement?
Alors, sincèrement, je pense celle que je suis aujourd'hui. Donc, si je devais refaire mon histoire ou ma vie, je pense que les événements m'ont énormément appris. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre encore. Et j'espère juste avoir encore un peu de temps, si Dieu nous prête vie, pour transmettre encore ce que j'ai appris dans ma vie.
Alors vous êtes notamment consultante en diversité, en gestion de la diversité. Votre vie a été aussi synonyme de diversité.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai eu la chance de faire de la politique. J'étais une des premières avec Sia Bouafa, notamment, juste après elle. Donc, on était dans les années 2000, 2004.
En Belgique.
J'ai été élue en Belgique, oui, comme parlementaire. Et la diversité, encore maintenant, elle est sujet d'actualité. Et je pense qu'elle le sera encore. Parce que c'est un sujet qui est quand même un petit peu difficile aussi à aborder, selon la vision des uns et des autres. Mais j'en ai fait finalement ma force, parce qu'à la base, ça a été mon handicap, si je peux dire. Mmh. Une femme en politique, parce que c'est quand même un monde très machiste, très masculin, et en plus d'origine étrangère. Donc on essayait de me mettre en tout cas dans une situation où j'avais... entre guillemets, ma place d'étranger ou d'immigré, où je vais faire trois fois plus de travail que les autres pour être reconnue, où j'avais uniquement des sujets qui étaient les miens, qu'on supposait être les miens parce que d'origine étrangère. Voilà. Donc ça a été un long combat et après 10 ans de ma vie, j'ai compris que le combat ne devait pas être un combat, justement, qu'il fallait en faire une force. Mmh. Et donc j'ai commencé à former les gens, à leur dire, au lieu de leur en vouloir, et de quitter, c'est ce que je faisais. Donc, je n'étais pas d'accord, je claque la porte. C'est mon tempérament. Et avec la sagesse, j'ai compris que non, de faire plutôt une force. Et j'ai commencé donc à créer mes propres modules de formation. Et je les donnais donc à des entreprises, à des hommes, des femmes politiques, à des associations. Voilà, j'en ai fait une force.
Une compétence à partager. Une expérience personnelle aussi à partager.
Une expérience à partager.
À partager, absolument, absolument. Prendre une autre perspective d'une situation et observer différemment. Alors, Souad Rzouk, vous avez dit justement, le monde politique est un monde très macho. Et je me suis toujours en fait posé cette question, comment ? Et j'espère que vous allez m'aider à peut-être avoir une partie de la réponse. En fait, quand on est en dehors de la politique, du monde de la politique, on a confiance en ces gens. On se dit c'est eux qui nous gouvernent, c'est eux qui façonnent, on va dire, l'avenir des pays, des lois, c'est eux qui sont force de proposition, etc. Et quand on entend une femme, donc on a confiance en ces gens. On se dit, il y a cette égalité, cette impartialité, ils sont là pour tout le monde, pour hommes, femmes, petits, grands, pauvres, riches, ils sont là pour tout le monde, ils sont supposés être là pour tout le monde. Mais quand on entend des femmes politiques s'exprimer sur le monde de la politique, moi, personnellement, souvent quand j'entends ça, c'est un monde d'hommes, c'est un monde macho, je me dis comment cet environnement qui ne fait pas de place à la femme peut justement gouverner.
Alors, il y a, c'est une analyse très intéressante parce qu'il y a des questions, mais vous faites aussi une très belle analyse. Il faut savoir que d'abord, on ne nous donne pas notre place. Hein. On doit faire notre place. Et c'est l'erreur que j'avais commise, moi, à l'époque, c'est que je cherchais ma place. Je voulais que le parti m'intègre. Et je ne me sentais pas intégrée. Et donc, je me disais que l'herbe me paraissait plus verte ailleurs. Mais en fait, pas du tout. Donc, c'est à nous à faire notre place au sein d'un parti. C'est à nous à faire notre place au sein de la communauté. C'est à nous aussi à sensibiliser les femmes, parce qu'il y a aussi une communauté de femmes, mais qui ne sont pas forcément solidaires. Quand on voit que quand une femme politique se présente sur les listes électoraux, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui votent uniquement pour des hommes, même quand on peut voter pour plusieurs personnes en même temps. Donc il y a une solidarité, une prise de conscience qui doit se faire, qui ne se fait pas. Et quand on dit, quand j'entends vous dire, par exemple, les gens font de la politique, donc on leur donne notre confiance, hein, nous les citoyens, le peuple, mais on fait toutes et tous de la politique, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que les gens parfois ne comprennent pas. Quand je parlais avec des jeunes, les jeunes me disaient, mais c'est vrai que moi je m'en fous de la politique. Je me dis, la politique ne s'en fout pas de toi. La politique, c'est même jusqu'à ce que la fibre ou le coton que tu as dans le pull que tu portes, la politique, elle s'en occupe. Donc, si tu laisses faire les choses, si tu ne t'intéresses pas quelque part à la vie publique, si tu ne t'intéresses pas aux politiciens, si toi-même, tu ne t'intéresses pas même à faire de la politique, rien n'empêche les jeunes aujourd'hui d'être membre dans un parti politique, c'est tout à fait ouvert, d'être membre, de s'intéresser, de faire des activités, que ce soit au niveau associatif, on fait aussi la politique d'une manière associative, autrement. Donc c'est gérer la société, on le fait tous quelque part.
Alors, quand on dit que c'est un monde d'hommes, la femme le ressent comment ?
La première réaction, c'est la frustration en fait. C'est on se sent mal aimé, mal compris, rejeté. Donc, moi qui avais le syndrome du rejet, j'ai fait mon karma, moi, je pense, sur ce côté-là. La politique m'a appris, en tout cas, à guérir ce côté-là. Mais on se sent vraiment rejeté, un peu à l'écart de la société. On se sent aussi devoir se battre beaucoup plus. Mais ça, je pense que c'est peut-être aussi dans d'autres sphères dans le monde du travail. Mais dans le monde politique, il est féroce. Parce que même au niveau des listes, bon, par exemple en Belgique, il y a des listes où on oblige donc les partis politiques à mettre un homme, une femme, ce qu'on appelle la tirette. Donc un homme, une femme, un homme, une femme. Mais malgré ça, si on oblige quelque part à le faire, c'est que c'est pas naturel, c'est que c'est pas, on n'est pas aimé, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on oblige quelque part à faire une tirette électorale. Donc c'est un sentiment en tout cas qui est qui fait un peu mal, quoi, au niveau sentimental. Maintenant au niveau des droits. Bon, ben, on essaye de faire en sorte que la femme puisse avoir les mêmes droits que l'homme.
Est-ce que vous arrivez à rester femme et féminine dans ce monde-là ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce que dernièrement, je suis tombée sur une interview donnée par une journaliste française, Caroline Roux, qui présente l'émission C'est dans l'air. Et donc, elle, aujourd'hui, elle présente l'émission, cette émission-là, mais elle a toujours été journaliste politique. Et donc, elle a toujours fait des interviews avec des hommes politiques, surtout. Et quand elle a démarré dans cette carrière-là, on lui a dit, attention, il ne faut pas trop te faire remarquer. Faut vraiment... Et elle disait qu'au départ, elle n'arrivait pas à assumer son style féminin. Elle avait l'impression qu'elle devait, entre guillemets, se déguiser en journaliste politique, c'est-à-dire tailleur sobre, coiffure sobre, maquillage très sobre. Pourquoi ? Parce qu'elle est face à un homme politique. Est-ce qu'on... Finalement, aujourd'hui, avec l'expérience, elle a inversé la donne. Elle existe en tant que femme, journaliste, mais en tant que femme, comme elle le souhaite, en fait. Est-ce que quand on est femme politique, on se déguise un peu en homme politique quand on descend dans l'arène, quand on est avec ses collègues.
En tout cas, moi, j'ai fait vraiment l'inverse donc de cette journaliste. Je pense que j'ai été moi-même, donc très féminine, petite tailleur, j'ai toujours été très coquette. Et c'est vrai que ça m'a valu beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, que ce soit par rapport à mes collègues, mais aussi par rapport à mon électorat, où j'entendais « retourne dans ta cuisine », voilà. Donc, il y avait quand même des propos très sexistes et très machistes. Par contre, oui, je ne regrette pas d'avoir été moi-même. Et je pense que c'est vrai que c'est difficile, mais il faut être soi-même. Voilà, il faut être soi-même, mais dans le respect. Dans le respect. Un peu comme dans nos traditions. Je vais m'habiller d'une manière beaucoup plus, on va dire, classique. Si je suis en contact avec telle ou telle communauté ou telle personne, il faut savoir s'adapter. Et ça, c'est un petit peu dur. Moi, j'entendais dire, oui, mais alors tu es hypocrite. Je dis non, j'ai appris que l'hypocrisie pour certains, peut-être le respect pour d'autres. Et j'ai opté pour le respect. Donc oui, être soi-même, mais avec le respect de l'autre, avec le respect de la culture de l'autre, avec le respect des traditions des autres. Mmh. Il faut vraiment jouer à un caméléon, en fait. Un vrai politicien, c'est être un caméléon et c'est s'adapter à son environnement.
Alors, Saad Erzour, justement, il y a ce grand retour pour beaucoup de Marocains du monde au pays, au Maroc. La presse s'y intéresse aussi, de ce constat que de plus en plus, justement, reviennent s'installer, investir au Maroc. Est-ce que vous pensez un jour faire partie aussi de cette vague de retour?
Eh bien, je suis en plein dedans, si je peux dire ça.
Ah oui?
Parce que je viens d'acheter un appartement à Tanger.
D'accord.
Donc, moi, je suis originaire de Oujda, mais j'ai eu un coup de cœur pour la baie de Tanger. Donc, et il y a à peine un mois, donc je viens d'investir dans un magnifique appartement sur la baie. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette ville, un coup de foudre pour le Maroc, parce que c'est une évolution incroyable, extraordinaire. Et je pense que l'Europe n'a rien, franchement, envie. Voilà, le Maroc n'a rien envie à l'Europe, plutôt. Il y a une propreté, il y a en fait au Maroc ce qu'on trouve pratiquement plus en Europe, et je dis vraiment dans toute l'Europe, c'est la notion de service. Donc au Maroc, on a encore la notion de service. On va acheter quelque chose dans un magasin, vous avez la personne qui vous appelle en ligne, qui vous parle. Il y a encore des gens. et ça, c'est incroyable parce qu'en Europe, on n'a pratiquement plus de service.
Alors,
donc, le service est complètement perdu et l'humain avec.
Ce retour, cet investissement, éventuellement ce retour au Maroc, est-ce que ça serait pour y faire de la politique aussi?
Alors, honnêtement, je n'ai pas songé à faire de la politique dans le sens premier du terme, m'inscrire dans un parti et faire des élections. Mais c'est vrai que quand je traverse la rue en face de chez moi, je me dis, tiens, j'aimerais bien mettre un petit dedans là, ce serait peut-être plus de sécurité. Ou alors je me pose la question de voir les feux de signalisation, comment ça se fait qu'ils sont juste après et non pas avant les lignes piétonnières. Parce que voilà, c'est un défaut, je veux dire, j'ai gardé ce virus, ce défaut, en me disant, tiens, j'aimerais bien améliorer ça ou prendre contact avec les hommes politiques d'ici pour leur donner mon point de vue, pour échanger avec eux tout simplement, leur donner un partage, améliorer un minimum si je peux le faire, mais d'une manière directe ou indirecte. Mais ça m'effleure l'esprit en tout cas de prendre contact et de dire, tiens, j'ai envie de partager mon expérience avec eux.
Donc, venir au Maroc, ce serait peut-être pour changer de vie, carrément?
Non, je pense que dans tout ce que j'ai fait, même si ça paraît tout le temps différent, hein, j'étais assistante sociale à l'âge de 20 ans, j'ai fait de la politique, j'ai développé maintenant ma propre méthode de coaching parce que j'ai fait énormément de coaching et de conseils, des formations. Et je pense que c'est vraiment, si je peux aider un petit peu à transformer les choses, c'est ma mission de vie, je pense. Et donc, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Il y a une continuité. Je ne pense pas qu'il y a des arrêts. Il y a des changements, mais je ne pense pas qu'on arrête vraiment une vie pour une autre. Je pense qu'on la transforme.
Vous avez envie d'aller vers quel type de transformation?
la même que celle que je fais maintenant. Donc, j'ai envie de continuer à transmettre. Là, pour l'instant, je travaille sur ma méthode que j'ai appelée Double Eye pour intelligence intuitive. Et j'ai envie maintenant de transmettre un petit peu le savoir. J'ai énormément étudié sur même des sujets qui fâchent, parce que j'aime bien les sujets qui fâchent. Et j'ai envie modestement d'apporter ma pierre à l'édifice, à contribuer, à changer peut-être, à évoluer, à changer au niveau des mentalités et à étudier d'autres phénomènes sociaux. Voilà. Des phénomènes où on pourrait en parler. Hein. Ce serait un deuxième podcast, puisque je suis vraiment fascinée par des sujets qui fâchent aujourd'hui, qu'on pourrait appeler ésotérisme, mais que j'ai analysé de manière scientifique, parce qu'en étant coach, à un moment donné dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient malheureux, mais vraiment très très malheureux, et en changeant de vision, en changeant de paradigme, de croyance, eh bien on arrive à faire des miracles, et j'ai envie de transmettre ça en fait, voilà. Peut-être par écrit aussi. Oui. Ça peut être aussi une autre manière de faire de la politique. Oui. Laisser un écrit écrire.
Alors justement, quand on arrive à votre expérience de la vie, à ces différentes étapes que vous avez vécues, parce qu'on dit que à cet âge-là, quand on arrive avec cette maturité, etc., on est beaucoup plus libre. Est-ce que c'est un cliché justement ?
Qu'on arrive à être libre, non. Je pense que l'expérience, c'est que on tend vers la liberté. Je pense que l'humain a envie d'être libre, mais il faudrait alors définir la notion de libre. Moi, je me sens libre parce que j'ai la chance de pouvoir travailler, que ce soit dans n'importe quel pays, au Maroc ou autre. J'appelle ça, pour moi, être libre. Mais peut-être pour quelqu'un d'autre, cette notion de liberté est tout à fait autre. Je pense qu'on a chacun notre propre définition de la liberté.
La vôtre, c'est justement cette possibilité d'être géographiquement libre.
Oui, géographiquement libre. J'ai besoin de me sentir... en fait, je ne supporte pas les routines, je ne supporte pas l'autorité. Donc, être quelque part du lundi au vendredi, je ne sais justement pas le faire. Donc, j'ai un côté très, très créateur. J'ai besoin d'intuition, j'ai besoin de cette liberté. Et j'ai besoin d'être libre de mon agenda. Voilà. C'est ma définition de la liberté.
Est-ce que justement, avec les années, on sait qu'il y a des combats perdus d'avance, notamment en politique?
Alors, je pense que les combats ne sont jamais perdus, parce qu'ils sont peut-être perdus dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai un combat aujourd'hui, hein, regardez par exemple l'évolution, les mouvements de la femme dans les années 70 ne sont pas celles qui sont aujourd'hui, mais c'est une continuité. Hein, on fait les choses pour les autres, en fait, pour les autres générations. Si on perd pas ça de vue, alors on peut vraiment, comme un colibri, chacun apporte un petit chouïa, quoi. Et puis, voilà, les autres générations vont peut-être s'imprégner de ce que nous avons fait, même si aujourd'hui, on ne voit pas l'impact. Mais dans quelques années, je pense que les autres auront cette chance d'avoir eu des gens, à l'avance. Vous voyez, c'est une question,
oui, c'est une question de temps, en fait.
Un combat n'est jamais perdu.
Ouais,
ouais. Ouais, c'est une question de temps.
Et ça, c'est peut-être aussi un apprentissage de la vie.
Oui, oui. Un peu comme on dit, Confucius l'a dit avant, et je pense dans notre culture arabo-musulmane, on le dit souvent aussi, on doit vivre comme si on ne va jamais mourir. Donc créer, voilà. Et profiter un peu de la vie comme si on va mourir demain. Et je pense que moi, je me suis toujours située comme ça dans ces deux mouvements, quoi. Donc, je vis comme si je vais mourir demain. J'essaie de ne pas me priver, pas d'attendre trop longtemps, mais en même temps d'avoir cette sagesse de se dire on va construire, mais peut-être pas pour moi, mais peut-être pour les autres. Voilà, de faire les deux.
Eh bien, Sohad Erzour, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous, c'est gentil.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.